Merci beaucoup Annie, on vous retrouve tout de suite pour cette émission. Quant à vous, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal en français facile.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Sonia, ça y est, on connaît la date de la finale de Radiovision.
Encore heureux, parce que c'est samedi 14 juin à 19h sur cette antenne.
Et tu sais qui gagne?
Ah ben non, on va le découvrir en direct avec vous. C'est le public et le jury qui décident. On ne sera donc que samedi qui gagnera Radiovision 2025.
Alors rendez-vous samedi 14 juin à 19h sur radiovision.fr.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Mercredi 11 juin 2025, voilà, si vous n'aviez pas eu le calendrier ce matin, vous avez l'information désormais. 18h10, on est ensemble pendant 50 minutes d'agitation locale et culturelle, très culturelle, parce que c'est souvent ce qui se passe sur un territoire. C'est aussi souvent la culture qui n'a pas suffisamment la parole, et Topette est là pour ça, modestement, mais en tout cas on prend plaisir à donner la parole à celles et ceux qui animent culturellement le territoire. Et ça, ça va pas déplaire à Suzanne qui est toujours avec nous. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir.
En stage jusqu'en la semaine prochaine, spécialisée culture de l'émission, ça y est, c'est ton...
Oui, c'est mon domaine maintenant.
C'est ton domaine. Et tu vas rester avec moi pendant cette émission parce que justement, on va poser plein de questions à nos deux sujets de la soirée. Alors, c'est bientôt la fête de la musique, donc on va passer en musique. On aura tout à l'heure Théophile, l'artiste angevin, enfin parce qu'il vient d'Angers, mais du coup il rayonne quand même un petit peu au-delà du département, bien au-delà même, qui a sorti son premier album, ça y est, troisième dizaine, c'était le 23 mai, et il sera le 19 juin dans la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, dans la salle Camille Lepage avec CG Bess. On en a parlé aussi pas mal dans cette émission. Et juste avant, alors on va revenir quand même un petit peu au théâtre, puisqu'on sera avec Quentin de la Compagnie du Poulpe, qui n'aura malheureusement pas de festival du sous-marin cette année, mais il y a quand même une campagne estivale qui a été lancée avec les marathons théâtraux, on va les mettre au pluriel, résidence aussi de feu et lumière, résidence musicale, voilà, on fait le lien quand même. On aura un petit extrait, puis il sera aussi question des chaises, tout simplement. Topette, tous les soirs, 18h10, 101.5 FM, c'est parti.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Alors juste avant de recevoir nos invités, on va faire une petite chronique sur les stars angevines qui rayonnent bien au-delà du département, de la France et même à l'international. Et ça va être avec toi Maxence.
Savez-vous quel est le point commun entre Désiré Doué, Nicolas Mahut et Paul Boudéan ? Eh bien sachez qu'ils sont tous les trois nés à Angers. Je vais vous dresser un petit portrait de chacun d'entre eux, de leur naissance dans la cité du roi René jusqu'au devant de la scène.
Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Nicolas Mahut !
Né à Angers en 1982, Nicolas Mahut est l'un des joueurs les plus titrés en double de l'histoire du tennis français. En simple, il a marqué les esprits avec un match marathon de 11 heures à Wimbledon face à Isner en 2010. Un match historique puisqu'il est devenu le match le plus long de l'histoire du tennis professionnel. Mais s'il est devenu un pilier du tennis français, c'est pour sa carrière de double homme avec Pierre Hugerbert. À deux, il compte un grand nombre de victoires avec 5 grands chelems, dont 2 Roland-Garros. S'il a fait l'actualité il y a 2 semaines, c'est parce qu'il participait justement à son dernier Roland-Garros avec son acolyte Herbert. Une élimination au premier tour anecdotique qui s'est suivie d'un discours plein d'émotions pour la légende du double français. Surnommé le bulldozer par Mathieu Lartaud lors de Italie-France, Paul Boudéan, né en 1999, a grandi à Angers puis à Nantes avant de rejoindre les rangs du Stade Rochelais. En 2023, il a remporté la Champions Cup, l'une des plus grandes compétitions européennes du rugby avec La Rochelle. Il occupe le poste de troisième ligne aile aux côtés de Grégory Aldrit, en club comme en sélection. Et oui, depuis 2 ans, il est convoqué par Fabien Galthié et est même devenu l'un des joueurs essentiels du 15 de France. Il a notamment soulevé le trophée de vainqueur du tournoi Destination en mars dernier.
Pour un contre un face à Di Marco.
Désiré Doué.
Vous avez sans doute déjà entendu ce passage si vous avez regardé la finale de la Ligue des Champions lorsqu'il inscrit le second but parisien. Né en 2005 à Angers, Désiré Doué est l'un des plus grands espoirs du foot français. Un talent brut formé au Stade Rennais qui impressionne par sa vision du jeu et sa technique. Une première en pro à 17 ans et des apparitions en Ligue 1 qui ont fait de lui un élément important des Bleus lors des Jeux Olympiques de Paris. Mais si on parle autant de lui aujourd'hui, c'est surtout et aussi pour son incroyable saison avec le Paris Saint-Germain qu'il a rejoint l'an passé. Avec 54 matchs, 14 buts et surtout une prestation parfaite en finale de Coupe d'Europe, Désiré Doué a fait la une de tous les journaux. À 19 ans, il est devenu le joueur le plus jeune à être impliqué dans 3 buts lors d'une finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il fait partie intégrante de l'effectif champion d'Europe et de l'équipe de France à l'image de sa titularisation lors du dernier rassemblement avec les Bleus. Il est même pressenti dans le top 10 du prochain Ballon d'Or. Voilà 3 profils, 3 disciplines et 3 âges différents qui montrent toute la richesse du sport angevin.
Merci beaucoup Maxence. Alors pour ce qui est de Désiré Doué, on peut même souligner que sa famille est originaire de Candé, très précisément. Voilà, ça fera plaisir aux Candéens et Candéennes qui nous écoutent. Et comme quoi, Angers n'a pas à rougir de ce qui peut se passer à Nantes, hein, n'est-ce pas Maxence?
Exactement.
Du foin dans les granges, le 13 juin, ça commence à la pointe de Bushmen, 6e édition avec The Dab Dixie, l'orchestre du collège Jacques Catminot de Saint-Florent-le-Vieil en ouverture, Lynn Wolf et Alissa Galvan Band. Il y aura aussi des dates les 18 et 19 juillet et les 29 et 30 août à Saint-Laurent. Laurent Dumoteil, s'en passe des choses dans les Mauges, décidément. Radio G est partenaire. Plus d'infos soit sur le site de Radio G, soit sur c-parici.fr, il n'y a pas de tiret, c-parici.fr/2025. Et maintenant, on accueille nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Très bien.
C'est la première fois que tu viens ici en studio, puisque habituellement c'est plutôt le studio qui vient à toi quand oui. Tu es au micro de Topette ou de Radio G. De la compagnie du Poulpe. Alors la compagnie du Poulpe, c'est souvent aussi Anne-Claire qui vient en parler, qui nous parle souvent du festival Le Sous-Marin. Alors on était rendu à la 9e, 10e édition, je crois.
Si seulement.
Non. 5e, pardon.
La 5e, oui.
La 5e, voilà, c'était l'anniversaire. Il n'y aura pas de 6e édition cette année, malheureusement. Mais voilà, il y a quand même des activités.
Ça ressemble un peu.
Voilà, ça ressemble un petit peu. On va en parler puisqu'il sera question des marathons théâtraux, de la résidence de feu et lumière, les chaises également. Mais avant tout ça, quand même, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de sous-marin cette année? J'aimerais bien savoir, Quentin, même si j'ai une petite idée de pourquoi.
Eh bien, il n'y a pas de 6e édition parce que ça prenait tout simplement beaucoup trop de temps à mettre en place. Et la compagnie ayant de plus en plus de spectacles qui tournent, de plus en plus d'ateliers, de plus en plus d'activités, ça commençait à devenir un peu compliqué de mettre en place ce festival parce qu'il y avait quand même tout le marché organisé avec les artisans, les artistes, les associations qu'on invitait, tous les artistes à trouver pour monter la prog du festival, trouver un lieu, tout ça, c'était très lourd. Et l'autre raison, c'est que tous les ans, le festival du sous-marin a changé de forme, et c'est pour ça qu'on aurait pu appeler ça la 6e édition du sous-marin, parce que finalement, pendant tout le mois de juillet, on fait une tournée de spectacles majoritairement autoproduits. Et c'est un petit peu l'essence du festival, donc c'est un petit peu la sixième édition, mais comme cette fois-ci ça concerne que la compagnie du Poulpe, on a juste décidé de passer un peu à autre chose. Ça veut pas dire que le sous-marin c'est totalement terminé, peut-être qu'un jour ça reviendra, mais voilà, pour l'instant on met ça un petit peu de côté.
Donc le sous-marin qui avait déjà un peu pour philosophie de retourner les choses, de faire à l'envers, finalement dans le fait même de plus proposer le festival, ça poursuit la philosophie de la compagnie du Poulpe.
Totalement, on surprend.
On surprend, on reste dans la surprise. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Donc on est bien d'accord, juste quand même pour enlever cette ambiguïté, c'est pas une question financière, la compagnie n'est pas... On a beaucoup entendu parler des coupes de subventions dans la région Pays de la Loire, on n'est pas sur ce registre-là par rapport au festival du sous-marin.
Non, vraiment pas. Pour l'instant, avec la compagnie, on a de la chance, on arrive à continuer de faire nos projets et à avoir beaucoup de travail. Donc non, c'est vraiment pas une question financière, c'est vraiment une question de temps, d'énergie, de tout ce que ça demande en fait.
Alors Suzanne, tu t'es intéressée un petit peu à la campagne estivale de la compagnie du Poulpe, tu as relevé certaines dates, certaines choses, qu'est-ce qui a sauté à ton œil de prime abord?
Moi je me suis d'abord posé la question, parce que vous proposez des stages, de savoir quelles étaient les prochaines dates à retenir si on veut s'inscrire.
Alors les prochaines dates à retenir, il y a le 13, 14, 15 juin, qui sont les représentations des ateliers théâtre qu'on donne à Saint-Mathurin. Donc c'est très bientôt. Et l'idée c'est que tous les ans on donne un an de cours de théâtre à Saint-Mathurin et Et voilà quoi, c'est une activité très importante dans la compagnie. Et ensuite, il y a le 11 juillet, enfin la semaine avant le 11 juillet, où on fait un stage marathon théâtral. Peut-être on détaillera après ce que c'est.
On peut le détailler maintenant, parce que justement, il y a une différence donc entre les ateliers et le marathon théâtral.
Oui, les ateliers, c'est vraiment des cours de théâtre qu'on donne à l'année à Saint-Mathurin-sur-Loire. Là, on a la chance l'année prochaine, on part avec un partenariat avec la maison Loire-Odyssée. On va donner nos cours dans Loire-Odyssée, donc c'est assez chouette. Et les marathons théâtraux, c'est une formule qu'on a créée il y a 2 ans maintenant. L'idée, c'est en le moins de temps possible, on monte un spectacle avec des amateurs. L'idée, c'est que c'est un projet qui tourne dans les collèges, les lycées, même en maternelle. On l'a fait avec des primaires, on l'a fait avec des adultes. Enfin voilà. Et en général, c'est en 3 fois 3 heures, on monte une demi-heure, 40 minutes de spectacle. Il y a pas d'échauffement, il y a pas de temps d'introduction. Directement, on rentre dans de la mise en scène et on considère les amateurs comme des professionnels du théâtre. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a appelé ça marathon. C'est que y a pas le temps de souffler. On y va, on fonce et on implique les amateurs dans une expérience de mise en scène professionnelle.
Est-ce que Quentin, tu connais le Cinéma Sprint à Angers?
Ah non,
c'est un autre Quentin d'ailleurs, Quentin Ménard qui propose ça. C'est pareil, mais en version 3 jours pour proposer un court métrage, un embryon de court métrage.
Ah, c'est top ça. J'avais jamais entendu parler.
Le sprint, le marathon, on est un petit peu sur les mêmes registres. Est-ce que c'est des registres qui pourraient inciter des grands sportifs comme Quentin à se lancer dans le théâtre? C'est un petit peu moins ta cam, le théâtre, Quentin. Pardon, Maxence.
Bah oui, c'est vrai que je suis pas un grand adepte du théâtre. J'en ai fait quand j'étais tout jeune, mais bon. C'est vrai que c'est des expériences assez atypiques et qui peuvent inciter pas mal de gens à se lancer.
On a notamment dans le marathon, le premier marathon qu'on a fait, c'était sur le thème du sport. Donc on faisait aussi bien des exercices de sport, des chorégraphies, que des textes qui parlaient de sport. Notamment, on a repris tout un passage d'un but dans je ne sais plus quelle compétition très connue. Enfin, voilà, donc les sportifs sont contents de venir faire du théâtre dans ces conditions-là.
Bon, Maxence, le sport, et Quentin, la culture, hein, le théâtre plutôt. Suzanne, est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à cette campagne estivale sur le marathon, les ateliers, par exemple?
Non, pas spécialement. Pardon, vous avez déjà répondu à mes questions, parce que je me demandais aussi si c'était ouvert à tout public, mais...
Ah oui, sur les publics, tu parlais des adultes, faut le repréciser, ça c'est vrai que Suzanne a raison, on n'est pas que sur des choses prévues pour les enfants ou le jeune public, les adultes aussi peuvent se lancer.
Ah oui, complètement, ouais. Le marathon, en fonction de qui commande le marathon, en année c'est plutôt dirigé vers les scolaires, mais par exemple l'été, c'est nous qui organisons cette semaine de marathon, et tout âge est bienvenu.
Tout âge est bienvenu.
Voilà.
Il y a pas de limite.
Il y a pas de limite.
Bon, bah, j'en parlais à ma grand-mère. Peut-être que ça pourrait.
Mais complètement. Et cette année, c'est pas sur le sport, c'est sur la liberté.
La liberté. Ben voilà, ce sera un sujet ô combien intéressant. On continue à parler de cette campagne estivale. C'est comme ça. Hein. J'utilise ce nom depuis tout à l'heure, mais on peut.
Oui, nous on appelait ça la tournée du poulpe.
La tournée du poulpe.
Voilà.
Pour l'été, je rajoute l'été quand même. Ouais, c'est important. Oui, il y aura du soleil, on pourra être en extérieur. On va parler des chaises et de feu et lumière. Et justement, de feu et lumière, tu nous proposes, alors pour teaser un petit peu, attiser, même si on veut rester en lien avec le feu, To the Sun. Oui. Quentin.
Oui. Donc de feu et lumière.
Oui. On en parle après, mais juste sur ce titre.
Oui. Juste ce titre-là, To the Sun, ça raconte l'histoire d'un personnage qui fait une prière au soleil. Et ça s'inclut dans l'histoire de Feu et Lumière.
Voilà, sur le 101.5 FM, on écoute et on revient tous ensemble juste après.
Righteous sun, whom enfold us in his rays, whom grants us peace and plenty, hear my prayers. My flames beset by nightmares, yet on thee in every man's rest past, guarding over our inner light, as a loving father thought. I am torn, forgotten by thy grace. He wounds weak in the face of night. Some dare to say that I could be a child born in the dark. Yet I swear that I pray thy light. I swear that I only seek thy light. I beg thee, Lord, righteous Son, grant me the same joyous man. Silence his voice of the great light, tries to fool me in my dreams. And if the world is so pale, so show me the way up to thee. Answer my prayers and my distress. Every night, what are these words? And if they're thine, why those darknesses where they seem to hide from me? I can't bear those curses. Forgiveness to ask. So turn, I beg thee, to hear my prayers now.
The Sun sur le 101.5 FM de Radio G To The Sun, qui sera, alors vous ne pourrez pas le retrouver sur les plateformes, puisqu'il faudra, si vous voulez profiter de cette musique, assister au spectacle de Feu et Lumière, sortie de résidence prévue le 26 juin à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et justement, on est avec Quentin de la Compagnie du Poulpe pour en parler. On va aussi parler de Métamorphose un peu plus tard, les 5 et 6 juillet, et aussi des Chaises, qui ce sera juste avant le 4 juillet à Montreuil-Junier. Mais avant tout ça, Quentin, Suzanne avait une autre question par rapport au nom, je crois, de la compagnie.
Oui, je me demandais pourquoi ça s'appelle la Compagnie du Poulpe.
Eh bien, parce que le premier spectacle de la Compagnie du Poulpe, qui s'appelait Un cri, deux âmes, c'était un spectacle assez tentaculaire, assez labyrinthique. Et en fait, à la fin du spectacle, on avait une espèce de poulpe en gélatine qui s'allumait et qui était un peu un espèce d'élément central du spectacle. Et ça nous a fait rire de partir de ça. Et puis aussi parce que le poulpe, ça a une dimension abyssale, quelque chose de très sombre, de caché. Et toute cette idée de choses cachées nous plaisait. Et surtout de trouver des belles choses dans les abysses. Parce qu'un poulpe, c'est super cool.
Le poulpe, je raccroche avec le sport, le poulpe qui faisait les pronostics lors de la Coupe du Monde, oui. Je crois, qui avait défini que l'Allemagne gagnerait face au Brésil en 2014. Tu confirmes, Maxence, hein?
Oui, c'est vrai, j'en avais entendu parler. C'était quand même assez fascinant de voir ça.
Ouais. C'est la Compagnie du Poulpe qui l'a fourni.
Oui, voilà, c'est ça, ça vient de là. Je m'adresse à toi, Théophile, tiens, avant de t'entendre chanter et nous parler de ton premier album qui est sorti le 23 mai.
Par rapport au poulpe?
Par rapport au poulpe, est-ce que tu consommes le poulpe? Non, par rapport au théâtre, parce que là, on est un petit peu dans ton secteur, hein, finalement. Ben non, pas du tout. Mais du coup, est-ce que le théâtre, tu suis un petit peu l'actualité théâtrale locale, la compagnie du Poulpe de loin peut-être?
Eh ben non, je connaissais pas. En fait, je suis assez ignorant sur le théâtre du coin. Pourtant, je commence à m'y intéresser. Je commence à bosser dans un théâtre à Château-Gontier, au Carré, et du coup, j'ai eu l'occasion de voir des spectacles et du coup de m'y intéresser de plus en plus. Mais c'est toujours un univers qui m'a vachement intéressé, mais j'avais pas les accroches nécessaires pour aller. Je sais pas, c'est surtout la musique, moi, qui du coup, dans mon entourage et le théâtre, j'avais pas vraiment de théâtreux, comme on dit, dans mon entourage, qui fait que je connais pas très bien, mais j'adore. Donc c'est l'occasion à chaque fois de découvrir des trucs.
Finalement, le marathon théâtral, tu pourrais te lancer peut-être pour découvrir ça de manière un peu condensée.
Bah, figure-toi que quand il disait ça, j'y ai pensé. C'est quelle date déjà?
C'est ça fait 9, 10, 11 juillet.
Ok.
9, ouais. 10, 11 répétition et le 11 juillet.
C'est où?
C'est au château de Briançon à Bonnet.
D'accord.
On est devant un château.
Bah, en vrai, j'y pense. En vrai,
ah, trop cool.
Ça peut être cool.
Bah, il va ouvrir son agenda et puis il va noter cette date. Merci Théophile pour cette intervention. Tu reviendras tout à l'heure avec de la musique. On écoutera Photo Photo en live. Ça, je l'ai pas annoncé, mais quand même, ça vaut le coup. C'est bien Photo Photo, hein.
Ouais, c'est ça.
C'est bien Photo Photo. Mais avant tout ça, on va rester du coup avec De Feu et Lumière, la sortie de résidence dont on parle maintenant. On a eu un extrait musical justement. Quentin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette résidence, ce spectacle?
Eh ben, De Feu et Lumière, c'est un spectacle que j'ai commencé j'ai commencé à écrire et composer les musiques il y a 12 ans maintenant. Donc c'est un projet de très très longue date et c'est un projet que j'ai sorti juste avant le Covid en solo. Je faisais guitare voix, sauf que ça a été un peu compliqué de porter ce projet tout seul. Il y avait une espèce de petit souci de légitimité à dire mes propres textes et peut-être que ça se prenait un peu trop au sérieux. Enfin bref, voilà. Et donc je l'ai mis de côté et Anne-Claire de la compagnie du Poulpe m'a incité à contacter un violoniste et j'ai contacté un violoniste, Nawel Baeza, qui m'a présenté un violoncelliste, Evan Lavignotte, et en fait on a commencé à répéter tous ensemble il y a de ça un an et demi et donc est née cette nouvelle version de De Feu et Lumière qui aura terminé d'être créée le 26 juin du coup. Donc pendant cette semaine, on va terminer la mise en scène du spectacle parce que c'est vraiment un spectacle musical. On a appelé ça veillée musicale parce que il y a les chansons et entre certaines chansons, il y a du conte. Donc c'est vraiment à la manière d'une veillée à l'ancienne. On raconte une histoire aux gens et on agrémente cette histoire de musique de notre composition.
Alors j'entends beaucoup, moi ça me fait penser à comédie musicale, j'imagine cette forme-là sur scène, mais c'est peut-être pas du tout ce à quoi ça va ressembler.
On
est plutôt sur veillée musicale, donc du théâtre chanté. Est-ce qu'il y a des lignes de dialogue ou on est vraiment sur de la musique pure?
On est sur quasiment que de la musique, il y a des passages, c'est juste du conte en fait. Donc nous trois, Evan, Nawel et moi, on est assis pour jouer. On a un petit brasero au milieu de nous qui vient faire un petit peu le feu de camp de la veillée. Et puis, il y a quelques passages comptés, mais sinon, vraiment, le reste, c'est que de la musique.
En anglais dans le texte, pour la musique?
Oui, en anglais dans la musique et en français dans les passages comptés. L'idée de l'anglais dans la musique, c'est de garder une certaine abstraction pour celles et ceux qui comprennent pas forcément totalement l'anglais. Parce qu'il y a vraiment l'idée que on invite les gens à ne pas trop s'accrocher à l'histoire, mais plutôt à se laisser aller à ce qu'ils entendent, aux sonorités qu'ils entendent et à l'histoire qu'ils ont envie de se raconter dans ce spectacle.
Ouais, laisser de côté un petit peu l'intellect qu'il pourrait y avoir derrière les mots et juste laisser les sensations sonores, visuelles s'emparer des spectateurs et des spectatrices.
Ouais, complètement finalement. Ça, oui.
Bon, bah, ce sera donc une grande première dans sa forme quasiment totale. En tout cas, oui. Après, ce sera peut-être, il y aura des rectifications. Le 26 juin à Saint-Mathurin-sur-Loire.
Le 26 juin, c'est la sortie de résidence. C'est vraiment la sortie de travail. Et la véritable première de De Feu et Lumière, c'est le 11 juillet au château de Briançon, à Bonnet, juste après, du coup, la représentation de ceux qui auront fait le stage marathon théâtral.
Et le château de Briançon à Bonnet, tu dis, Théo?
Je serai là, du coup, normalement.
Ah, bah, toi,
oui, c'est ça, voilà. Comme ça, tu pourras voir De Feu et Lumière. On redonne les infos pratiques tout à l'heure, Quentin. Bien sûr, il y a d'autres spectacles, puisqu'on parlait alors, dans l'ordre chronologique, ce sera mieux. Les chaises à Montreuil-Junier. Oui. Les chaises de Ionesco.
Oui, tout à fait. Les chaises de Ionesco, qui est le deuxième spectacle qu'on a créé avec la compagnie, qui est un spectacle qu'on tourne toujours, une farce tragique. On a appelé ça farce tragique parce que Ionesco lui-même disait que il écrivait pas de l'absurde puisqu'il écrivait sur le monde. Et si le monde est absurde, on n'écrit pas de l'absurde, on écrit juste sur le monde, quoi. Donc nous, on a pris un petit peu ce parti pris-là de Ionesco et on a appelé ça farce tragique. Et donc les chaises, c'est un vieux et une vieille qui sont sur une île. On comprend vaguement que le monde a connu sa fin, qu'il n'y a plus personne sur Terre. Et c'est ce vieux est persuadé qu'il a un message à délivrer aux potentiels survivants de l'humanité, sauf qu'il se sent incapable de le dire. Donc il a prévu une grande réunion où il invite tous les survivants de l'humanité et il a engagé un orateur professionnel pour délivrer son message à sa place, aux invités. Sauf que on n'est que deux sur scène. Enfin, on est trois, mais le troisième est caché. On n'est que deux sur scène à jouer et sauf qu'on invite des centaines de milliers de personnes à cette réunion. Donc, c'est un petit peu la surprise du spectacle. Comment va-t-on faire pour accueillir des centaines de milliers de personnes dans cette réunion?
Quentin, j'ai peur de me tromper, mais c'est bien vous qui avez fait On répète Andromaque.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà, donc vous restez un petit peu dans le registre classique. Ça reste aussi le credo de la compagnie.
Ouais, tous ces textes-là nous parlent beaucoup parce que ce qui nous inspire énormément dans la Compagnie du Poulpe, c'est pas tellement les sujets de société actuels, mais c'est plus les grands thèmes, je dirais. Dans notre ligne artistique, on dit qu'on aime bien parler de l'intime et de l'universel et de voir comment les deux sont liés. Donc ça nous pousse à parler de thèmes comme par exemple la liberté, le destin, la responsabilité, le choix, tout ça. Enfin, voilà. Donc avec Andromaque, on aborde aussi ces thèmes-là, et avec les chaises, on est à fond dans le messianisme. Comment on s'oublie un peu en pensant que c'est quelqu'un qui va tous nous sauver sans rien faire, quoi.
Donc des thèmes universels qui permettent aussi de s'émanciper peut-être de sujets de société qui seraient trop connotés et du coup qui seraient pas forcément qui nécessiteraient pas d'être mis en scène, mais en tout cas qui seraient trop connotés. Plutôt des thèmes universels pour la compagnie du Poulpe. Est-ce que ce sera le cas aussi dans Métamorphose?
Ouais, dans la Métamorphose. Donc c'est d'après le texte de la Métamorphose de Kafka. Donc là, c'est un concert lecture aux ambiances un peu club berlinois électro. Il y a deux musiciens sur scène et Anne Claire qui est à la lecture. Et donc avec la Métamorphose de Kafka, on est vraiment sur un homme qui se réveille un matin et il se rend compte qu'il est transformé en insecte. On comprend vaguement que ça ressemble un peu, qu'il ressemble un peu à un scarabée. Et voilà, on a la réaction de toute sa famille face à leur fils qui est devenu un insecte. Et il y a toute cette question de qui est réellement le monstre. Est-ce que c'est lui parce qu'il est devenu un insecte, ou est-ce que c'est sa famille parce que ils arrivent plus à le voir comme leur enfant, mais ils le voient juste comme un monstre.
Métamorphose, donc les 4 et les 5 et 6 juillet au château de Briançon, hein, voilà, c'est le spot.
5 juillet, c'est à Saint-Mathurin-sur-Loire, et le 6 juillet, c'est à Oudon, près d'Ancenis.
Ah, bah voilà, ça, Maxence y connaît. Bon, le Métamorphose, le poulpe deviendra peut-être pieuvre, donc qui sait, on aura plus d'infos en cours de l'été. Tu restes avec nous, Quentin, bien sûr, on va redonner toutes les infos pratiques, les choses aussi qu'on aurait oublié d'évoquer ensemble. On fait un petit détour par le podcast des légendes imaginaires de l'Anjou, et ensuite, on revient avec Théo pour un peu de musique.
Chers auditeurs, bienvenue dans notre chronique consacrée aux légendes de l'Anjou. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante du chêne des sept frères. Une légende qui plonge ses racines dans le cœur du Maine-et-Loire. Notre récit nous emmène dans la forêt de Chandelay, située entre Beaugé et Longuet-Jumelles. Cette forêt, l'une des plus vastes du département, abrite en son sein un arbre remarquable, le chêne des sept frères. Cet arbre majestueux, vieux de plusieurs siècles, tire son nom de sa forme particulière. Son tronc se divise en sept branches principales, comme sept frères unis autour de la base. Mais au-delà de sa morphologie particulière, c'est la légende qui l'entoure qui a traversé les âges, captivant l'imagination des Angevins depuis des générations. Selon les traditions orales, l'histoire remonte au Moyen-Âge, à l'époque des croisades. Sept frères, tous fils d'un seigneur local, décidèrent de partir ensemble pour la Terre Sainte. Avant leur départ, ils se rendirent dans la forêt de Chandelay pour une dernière chasse. Arrivés par un jeune chêne, ils firent le serment solennel de revenir tous les sept ou de ne pas revenir du tout. Pour sceller leur promesse, ils plantèrent chacun leur épée autour de l'arbre, formant un cercle parfait. Les années passèrent, et la guerre faisait rage en Orient. En Anjou, les parents attendaient avec angoisse des nouvelles de leur fils. Un jour, un message arriva porteur de tristes nouvelles. 6 des frères étaient tombés au combat. Seul le plus jeune avait survécu. Fidèle au serment, le dernier des frères refusa de rentrer seul. Il décida de rester en Terre Sainte, préférant l'exil au déshonneur de briser la promesse faite à ses frères. Les parents, accablés de chagrin, se rendirent dans la forêt, à l'endroit où leur fils avait fait leur serment. À leur grande surprise, ils découvrirent que le jeune chêne avait poussé de façon extraordinaire. Son tronc s'était divisé en 7 branches majestueuses, chacun poussant à l'endroit exact où les épées avaient été plantées. Ils comprirent alors que l'arbre était devenu le gardien du serment de leur fils, un monument vivant à leur mémoire et à leur fraternité. Le chêne des 7 frères est devenu un lieu de légende et de pèlerinage. On raconte que les âmes des 7 frères habitent toujours l'arbre, veillant sur la forêt et protégeant les voyageurs égarés. Certains affirment que par les nuits de pleine lune, on peut entendre le murmure des 7 frères dans le bruissement des feuilles. D'autres prétendent que toucher l'écorce de l'arbre apporte chance et protection, en particulier aux familles nombreuses. La légende a également donné naissance à des traditions locales. Pendant longtemps, les jeunes hommes, sur le point de partir au service militaire, venaient faire le tour de l'arbre, espérant ainsi s'assurer un retour sain et sauf. Aujourd'hui encore, le chêne des 7 frères reste un lieu empreint de mystère et de magie. Bien que l'arbre original ait disparu au fil du temps, un autre chêne remarquable de la forêt a hérité de la légende et continue de porter ce nom évocateur. Profondément ancrée dans le territoire angevin, nous parle de fraternité, de loyauté et du lien profond qui unit l'homme à la nature. Elle illustre également la façon dont les légendes peuvent transformer notre perception du paysage, donnant une dimension magique et symbolique à des éléments naturels. Le chêne des 7 frères nous rappelle que chaque arbre, chaque pierre de notre région peut être le gardien d'une histoire, d'un secret, d'une promesse faite il y a des siècles. Il nous invite à regarder notre environnement avec un œil nouveau, à être attentif aux murmures du passé qui résonnent encore dans nos forêts. Chers auditeurs, la prochaine fois que vous vous promènerez dans la forêt de Chandelet, prenez le temps de chercher ce chêne remarquable. Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance d'entendre le chuchotement des 7 frères dans le buissement des feuilles. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des mythes et légendes de l'Anjou.
Le chêne des 7 frères sur le 101.5 FM, le podcast des légendes imaginaires de l'Anjou que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. On va passer à notre deuxième sujet de la soirée. On accueille maintenant Théophile. Je savais qu'elle te ferait plaisir, cette virgule. Bonsoir Théophile.
Salut.
Ça faisait très longtemps que tu n'étais pas passé dans le studio. Il n'y avait plus d'actualité te concernant ?
Non, il n'y avait plus d'actualité. Enfin, plus trop. J'ai fait une pause de un an et demi, deux ans. À peu près pause. Hein. Il y a eu quelques trucs qui sont passés au travers. Mais oui, c'est pour ça que je n'étais pas revenu, parce que je viens à chaque fois qu'il y a des nouvelles normalement.
Et là, tu reviens avec de l'actualité, avec des choses fracassantes, puisque tu ne viens pas avec un nouveau titre, tu ne viens pas avec un nouveau clip, tu ne viens pas avec un nouvel EP, tu viens carrément avec un premier album.
C'est un album. Non, c'est un EP.
Ah, c'est un EP aussi. Ouais, il est annoncé comme album sur.
C'est vrai?
Oui.
Il y a une erreur. C'est qui?
Bah, c'est Spotify. Spotify.
C'est vrai? Ok. Ouais, voilà. Bon, après, album EP. Non, c'est un EP. L'album,
Ça reste une nouvelle fracassante parce que ça fait plaisir quand même d'avoir des nouveaux titres.
Un peu moins fracassant, je suis désolé de te décevoir.
Voilà, bah, c'est pas grave. Il y a une partie de l'audience qui vient de nous quitter. Ça s'appelle Troisième Dizaine. C'est sorti le 23 mai. T'as une date déjà le 19 juin à la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, la salle Camille Lepage. On en a parlé tout à l'heure avec Sylvie Bess en première partie, j'imagine, ou en deuxième?
Ouais, c'est ça, je joue avant, elle ouvre la soirée, voilà.
Pas de duo de prévu, non, vous avez pas.
Non, on n'a pas eu de. Non, on n'a pas prévu ça pour l'instant. Après, on sait jamais ce qui peut se passer, mais après, je chante en anglais, moi en anglais, je suis pas du tout.
Oui, ce sera, oui. Faut se caler avant, ce sera mieux. Déconnecté, photo, soleil, poisson volant en version orchestrale aussi, tu vas pouvoir nous parler de ce titre qui a certainement une importance pour toi. Le mal de l'époque, déconnecté des autres, de soi, tu t'es posé pas mal de questions pendant cette année et demie, j'ai l'impression, Théophile.
Ouh là là.
Et en tout tout cas, c'est ce qui paraît au travers de tes textes, de tes chansons. Mm-hmm. Parle-nous un petit peu de cette troisième dizaine. Elle s'est bien passée? C'était quand d'ailleurs?
Eh ben, c'était en septembre de l'année dernière. J'ai 31 ans, je crois. Oui, c'est ça. Donc l'année dernière, j'ai eu 30 ans. Non, logiquement, c'est ça.
Donc t'as 31 ans cette année en septembre?
Non, j'ai 32.
Ah, t'as 32. Ah oui,
du coup, non, c'était il y a, oui, oui, c'était il y a deux, oui, bon, bref. Enfin, bref. Oui, oui, en gros, cette troisième dizaine, qui, enfin, cette trentaine, en fait, c'est vrai que il y a eu un petit peu une suite d'émotions un peu sur tout le long. C'est ça que j'ai essayé de faire transparaître dans cette EP, où je suis passé par énormément d'émotions différentes. Donc, je suis revenu déjà en janvier avec Photo Photo, qui est une chanson qui a beaucoup de colère. C'est un petit peu la colère pour ce milieu-là de la musique, mais que ce soit professionnel ou personnel, c'est-à-dire se retrouver aussi dans tout cet univers d'images et de copains, collègues, etc., et de réussir à recréer des relations qui soient saines. Ensuite, je suis passé un petit peu par une sorte de lente chute léthargique avec Déconnecté. Il s'avère que j'ai perdu un ami, du coup, l'année dernière. Et du coup, ça m'a fait un petit peu, c'est la première personne proche que je perdais, donc ça m'a fait un petit peu chuter, on va dire, de tout ce que je ne connaissais pas. Donc j'en ai écrit Déconnecté. Ensuite arrive Soleil, une sorte de reconnexion à soi, de réappropriation de son corps, etc. Donc et ensuite troisième dizaine qui est l'ode à la trentaine, puisqu'aujourd'hui ça va extrêmement bien. Et également, du coup, ce qu'on a dans cette EP, c'est Poissons Volants. Tu veux qu'on en parle maintenant ou tu avais prévu un petit truc un peu différent?
Bon, on peut parler déjà. Non, parce que tu dis que t'es en colère avec Photo Photo, mais ouais. On aime bien que tu sois en colère parce que tu fais quand même de belles productions. On va l'entendre tout à l'heure en live. Musicalement, c'est juste avant, musicalement, sur l'EP, à chaque fois qu'il y a un nouvel EP, ou en attendant l'album, du coup, tu viens avec des nouvelles propositions. À chaque fois, tu explores un peu plus loin, tu fais des nouvelles propositions musicales et je sais pas si je me trompe peut-être, mais j'ai entendu des choses qui pouvait ressembler à ce qu'on peut entendre avec Stromae, par exemple, sur je sais plus quel titre, Soleil, je crois, non?
Peut-être sur troisième dizaine, peut-être.
Troisième dizaine, je exactement. Ouais. Je suis pas analyste.
On l'a déjà
musical.
Dit là-dessus, en tout cas. Mais ouais, il y a toujours des nouveaux trucs. Bah, déjà, moi, en tant que compositeur, je fais beaucoup plus de choses au fur et à mesure du temps parce que je m'expérimente aussi sur la MAO, etc. Et je vais chercher d'autres sonorités, j'écoute d'autres choses. Donc, forcément, là, on va retrouver, par exemple, un petit peu de musique cubaine sur troisième dizaine, on peut retrouver un petit peu de rythme à ma piano sur Swimanga, on va retrouver de la chanson un peu plus classique sur Soleil ou Photo Photo, et en fait j'explore toujours, je suis toujours en train d'explorer plein de trucs, donc il y a plein de trucs qui sont achetés et ça donne quelque chose d'assez différent, mais qui a quand même un univers, je trouve, qui est assez cohérent. Tu me diras, t'en penses quoi, toi?
Ah oui, il y a une évolution cohérente, un univers qui s'écoute très bien. Hein. Si on découvre Théophile avec ce... Si, bah du coup, c'est le combien de P? Ça fait le 4
1, 2, 3, non?
Troisième?
Je sais plus, il y en a un où c'était un truc de reprise, donc je le compte pas, je sais pas pourquoi.
Bon bah c'est le troisième, en tout cas oui, on peut te découvrir avec ce troisième EP et revenir sur le premier, on n'est pas perdu musicalement, on te retrouve.
Non, je crois pas.
Une petite patte.
Je trouve qu'il y a juste un truc qui va un petit peu plus loin dans les textes, qui est un petit peu moins pop lycée, mais qui va sur un truc un peu plus aussi engagé, même politiquement, par rapport aux sujets qui sont abordés. Et voilà, c'était une recherche d'identité. Au tout début, ça me correspondait, mais j'étais un petit peu plus à tâtons, ce qui fait un truc un peu plus lycée. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment sur un truc qui me correspond beaucoup plus.
Avec des textes, oui, engagés, et puis qui abordent des sujets qui sont peut-être moins, comme tu dis, abordés dans la pop plus mainstream.
Bah, peut-être pas les sujets, mais peut-être la façon de le faire. Ou après, bon, j'en sais rien, les gens jugeront par eux-mêmes, hein, mais...
Et donc,
j'ai la sensation.
Et donc maintenant, oui, on peut parler de Poissons Volants. Alors, ça faisait partie des actualités qui t'avaient concerné pendant cette pause, mais du coup, qui n'étaient pas forcément en lien direct avec ton projet, et qu'on voit apparaître en version orchestrale précisément sur cette EP. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît?
Alors, à la base, Poissons Volants, du coup, est sorti il y a un an, je sais plus. Je me suis un peu perdu dans les dates, du coup, avec tout ça. Mais c'était un feat avec Rookin, qui était un duo avec deux copains, donc Sébastien Rousselet, qui vient d'ailleurs du même village que moi, Rabelais-sur-Layon, et Nino Vella. Et on a créé ce titre parce qu'on avait envie de collaborer ensemble. Il s'avère que Nino Vella est décédé l'année dernière, en juillet, dans son sommeil, ce qui a été un assez gros choc du haut de ses 32 ans. Et en fait, à la fin de l'année, j'ai voulu finir l'année en me replongeant un petit peu dans les souvenirs que j'avais par rapport à toute la création de ce titre, et puis d'essayer de faire un peu perdurer, continuer la voix de Nino par rapport à cette musique. Du coup, j'en ai fait une version orchestrale qui est un peu plus intime et qui revient au fur et à mesure du titre sur la prod principale, sur l'instrumental principal pour le petit hommage à la fin qui revient. Donc voilà.
Oui, Nino, c'était pas juste un ami, c'était pas une collaboration ponctuelle, ça a été parce que on vous a souvent vu sur scène aussi ensemble. J'ai un souvenir au Shabada, par exemple, à l'occasion de la sortie du premier EP.
Ouais, c'est un ami de lycée, de longue date, ouais.
Ouais, donc c'était un hommage auquel tu ne pouvais pas passer à côté sur cet EP. Donc sept titres, c'est lui qui conclut. D'ailleurs, il y a une version quand même remixée aussi de Soleil.
Oh oui.
Oui. Un peu plus de Soleil, du coup.
Ouais. Alors celle-ci, tu vois, c'est même pas moi qui l'ai faite. C'est la version. Moi, j'ai fait la composition, donc de Soleil qu'on. Le titre principal, et ensuite il y a Théo Grasset donc qui a fait un remix. Moi j'aime bien dire que Soleil, la version principale, on l'écoute avec un petit mojito dans son fauteuil, et que le remix c'est plutôt en mode on se lever pour danser. Elle est un peu plus rapide, un peu plus vivante, et tout en étant très intelligente. Je trouve qu'il a très bien fait ça.
Bon, en tout cas, c'est pas Soleil qu'on va écouter. J'avais prévu au cas où, mais on va plutôt écouter Photo Photo. Je crois que c'est le titre qui, c'est le deuxième, le troisième sur le en position dans Pole Position.
Je ne sais plus.
Bon, en tout cas, on l'écoute en live sur le 100.5 FM de Radio G, et on peut applaudir Théophile pour l'encourager si on veut bien.
C'est pas l'attention qui me manque. J'ai juste l'impression d'être en otage quand tout le monde me dit donc en regardant mon visage. Je me sens pas artiste ni musicien quand je me tiens en face de. Bah ouais, y'en a toujours un qui se plaint quand on n'exauce pas tous ses voeux. Tout ce milieu est dangereux, rempli de privilèges. Sur scène on s'identifie à eux, derrière c'est tout un manège. Et je t'emmène avec moi, sans te faire croire aux poussières Dior. Moi je dors dans des draps de soie, plus je me plais dans l'effort. C'est photo photo sur les réseaux, ou poto poto pour le réseau. Musique mafia contact c'est trop. J'arrête là où je finis solo. C'est photo photo sur les réseaux, ou poto poto pour le réseau. Physique commerce tout pour l'ego. J'arrête là où je finis solo. C'est donc pour ça que je me sens seul. J'ai pas la même vision que mes semblables. Quand la passion devient le beurre, beaucoup de gens autour pour étaler la fable. J'ai besoin d'être une étincelle au milieu des feux d'ascenseur. Quand celui qui se prend pour celle défend les autres prédateurs. Et je t'emmène avec moi, sans te faire croire aux poussières Dior. Moi je dors dans des draps de soie, plus je me plais dans l'effort. C'est photo photo sur les réseaux, poto poto pour le réseau. Musique mafia contact c'est trop. J'arrête là où je finis solo. C'est photo photo sur les réseaux, ou poto poto pour le réseau. Physique commerce tout pour l'ego. J'arrête là où je finis solo. C'est photo 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 photo, ou poto poto pour le réseau. C'est photo, 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 photo. J'arrête là où je finis solo.
Théophile avec Photo, photo en live.
Il y a tellement de monde dans le studio.
100.5 FM de Radio G, qui a sorti donc son EP, son troisième EP officiellement, sans compter celui des reprises. C'était le 23 juin, tu seras sur la scène de la salle Camille Lepage avec CJ Bess.
Le 23 mai.
Oui, le 23 mai, le 23 juin, c'est pas passé. Le 23 mai, effectivement. Je suis toujours en vacances, moi. C'est pour ça. Mais le 19 juin, en tout cas, tu seras bien à la salle Camille Lepage.
Ouais. Venez, venez, parce qu'il y a beaucoup de. C'est une très grande salle. J'ai un peu vu gros, et voilà, ce serait super qu'il y ait plein de gens pour qu'on passe un super moment.
Voilà. En réservation, t'as les infos pratiques ou pas en lien avec cette date?
Avec cette date, sur mon Instagram, dans la bio, vous pouvez le trouver. Sur Facebook, il doit y avoir des posts par rapport à ça. Et sinon, sur le site de la maison de quartier des Hauts-Saint-Thomas, vous retrouverez la billetterie où vous pourrez acheter votre place à 13 euros tarif unique ou 9 euros à prix réduit. Voilà.
Et voilà, il faut être polycasquette.
Ma voix de radio.
Exactement, et puis il faut aussi faire sa propre promotion quand on est artiste et qu'on veut défendre son morceau de viande, comme on dit. Mmh. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y aura d'autres actus, d'autres scènes? Il y avait quelque chose qui devait se passer à Paris, ça a été annulé ou reporté? Il y a peut-être d'autres dates qui vont avoir lieu?
Alors, niveau date, comme je l'ai dit, c'est un peu une reprise, donc du coup, trouver des dates, c'est quasiment un an à l'avance. Donc il y a celles-ci qui sont exceptionnelles. À la rentrée, on est en train de travailler sur des choses, il va y avoir des dates du côté de Clermont-Ferrand, etc. Mais toute la tournée est en train de se monter, donc j'ai aucune info précise, mais ouais, il y a des choses qui arrivent, et surtout en septembre aussi, il y a cette EP qui sort en septembre, il y a autre chose qui va sortir qui va être très important, donc tenez-vous au courant, et bien sûr, Pierre Benoît, je reviendrai.
Des clips? Non, non, les clips.
Plus important, encore
plus
mieux
important.
Qu'un clip. Ouais.
Un album?
Peut-être pas en septembre.
Bon, on sait pas. Bon, en tout cas, on va se tenir informé. Il prend simplement son rendez-vous pour septembre. Merci beaucoup, Théophile.
On peut se caler une date, d'ailleurs.
On peut se caler une date. Bon, on va faire ça en antenne juste après. Donc, ça s'appelle Troisième Dizaine. On attendra la quatrième. J'imagine qu'il y aura une quatrième dizaine.
Oui.
Sortira.
Oui.
Voilà. Donc, c'était le 23 mai avec tous ces titres qu'on vous invite à découvrir dans la description du podcast de cette émission ou alors sur les réseaux sociaux de Théophile, tout simplement. Merci beaucoup, Théophile. Et on se dit rendez-vous donc en septembre pour cette grosse actualité. Peut-être que là, ce sera une annonce fracassante.
Qui sait?
Qui sait? Juste avant, on était avec Quentin de la compagnie du Poulpe qui est toujours avec nous. Première oui. réaction à chaud, peut-être déjà avec ce live de Théophile que tu découvres ce soir, je crois.
Ouais, je découvre complètement. C'était hyper bien.
Merci.
J'ai trouvé l'instru vraiment belle et puis même ta voix et tout.
Voilà.
C'est très très beau.
Donc, bravo. Si tu veux que Théophile aille au marathon théâtre proposé par la compagnie du Poulpe le 19 juin, faut que tu ailles à la salle Camille Lepage.
Ouais, on va faire un échange de.
Un échange.
Exactement, c'est le terme. Justement, les informations pratiques concernant les marathons théâtraux. Les représentations des ateliers aussi qui sont dispensés toute l'année, la sortie de résidence et aussi la première de Feu et Lumière, les chaises et Métamorphose. Pas mal de choses quand même cet été.
Ouais. Hein. Ouais, on a une grosse actu, on est content. Donc, je dis les dates.
Bien sûr.
Ah oui, pardon. Les représentations des ateliers, c'est 13, 14, 15 juin à l'espace Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire. Ensuite, le 26 juin à l'espace Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire, c'est la sortie de résidence de Feu et Lumière. Le 4 juillet, c'est les chaises à Montreux-Juigné. Le 5 juillet, c'est la métamorphose à Saint-Mathurin-sur-Loire. Le 6 juillet, la métamorphose à Houdon. Le 9, 10, 11 juillet, c'est le marathon théâtral, donc le stage, avec représentation le 11 juillet en première partie de la première représentation de Deux Feux et Lumière, donc au château de Briançon à Bonnet. Et normalement, si tout va bien, on aura le CD de Deux Feux et Lumière qui sera en vente. Le 19 juillet à Saint-Clément des Levées, Deux Feux et Lumière sur une toux. Donc ça va être trop chouette. On a une représentation à 6h30 du matin et une représentation à 21h.
Oui, le toux, c'est un bateau.
Un bateau de Loire, un bateau à fond plat qui navigue sur la Loire.
T'as vécu donc, à Saint-Florent, tu dis?
Un petit peu.
Pas sur le bord de Loire, j'ai l'impression. Terre, moi. En tout cas.
Le 19 juillet, les places sont extrêmement limitées parce que sur une toux, on n'embarque pas 12 000 personnes. Donc
on n'emmène pas tout.
Non, on n'emmène pas tout. Donc c'est réservation obligatoire pour le 19 juillet. Le 23 juillet, on joue De Feu et Lumière aux Alleux, sur le parvis de la mairie des Alleux à Brissac, Loire-Aubance. Et le 26 juillet, on joue De Feu et Lumière chez l'habitant à Angers.
Et ben voilà, tout qui est dit. Merci beaucoup Quentin, bon été. Bon été Théophile. Puis demain, on se retrouve avec Suzanne et Maxence qui seront presque aux commandes de cette émission. Prenez soin de vous, 18h10 demain. Topette. Topette Maxence, tu vois, je l'ai dit, c'est toi.
Topette.
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 Ce couplet, dimanche d'hiver sur la roseraie, très peu de temps pour reposer. Avec mon chat, je suis dans le plumard, inséparable comme Mario et Numa. Je ferme les yeux et j'imagine l'avenir. J'espère très peu, il y a trop de choses à venir. Puis j'en sors bien profondément. J'essaie de voir mon dénouement. Je rêve dans une terre, un way, baby. Que l'on y pourra.
Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.